présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. De lui. Il ressent vraiment qu'il est mort, car sa chair est en manque de sa chair, de sa chaleur, de ses baisers, de son corps sur lui. C'est insupportable de penser plus jamais qu'il ne l'aura. C'est comme s'il n'avait plus de corps vidé. Vidé. Il reste ainsi pendant des heures, sans réfléchir, dans ce vide et ce besoin de l'autre qui n'est plus. Comme ça, puis le désir de le retrouver est très fort. À force de penser à Guillaume, à son corps, sa peau, Son corps le désire de plus en plus. Et puis, il le fait revivre. Ses sens le font revivre. C'est plus en plus intense. Il se sent un désir si fort qu'il est obligé, tellement son besoin est surhumain, de se masturber. Il le fait assis à son bureau en se déculottant. En pensant à Guillaume, et il le fait revivre comme ça. Il le revoit, ressent son corps sur sa peau avec lui, sa chaleur, son vertige. Guillaume recréé, il est vraiment revivant pour son sexe. Il a l'impression qu'il vit pour lui. Puis, après avoir nettoyé et rangé, il se sent vidé, mais mieux. Le souvenir par le désir, par le sexe, a fait revivre son ami. Il est triste, mais conscient. Tout à coup, il pense à cette mère, à la mère de Guillaume, cette pauvre femme qui doit souffrir de la mort de son enfant, qui elle n'a pas le pouvoir de le faire revivre comme son amant. Elle doit être dans un désespoir terrible, surtout qu'ils étaient fâchés. Elle doit être pleine de remords, la pauvre femme, seule, sans mari, sans autres enfants. Il a une grande pitié pour elle et a envie d'aller la voir. Il sort de son bureau. Sortez, monsieur.
Oui.
Vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas annoncé la mort de Guillaume de Fleury.
L'enfant lui dit, c'était pour vous éviter du chagrin. Et puis, je savais que vous alliez le voir. Je n'aime pas annoncer des nouvelles comme celle-là.
Kélian lui dit, je vais voir la mère, puisque par votre faute, je n'ai pu aller à l'enterrement.
L'enfant lui dit, est-ce vraiment nécessaire?
Oui, pourquoi?
Il vaudrait peut-être mieux, pour votre réputation, que vous oubliez cette histoire.
Comment cela?
Oui, vous êtes célibataire, ça fait jaser.
Kélian ouvre ses épaules et lui dit,
eh bien, faites jaser.
Et il sort.
Une fois dehors, il entre dans sa voiture et donne l'adresse au chauffeur pour aller chez Madame de Fleury. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble où habite Madame de Fleury. Il sort de voiture
et entre dans l'allée.
Et monte à l'étage.
La porte s'ouvre
C'est le domestique. Je suis Galien Diap. J'aimerais parler à Madame de Flory.
Je vais voir si Madame peut vous recevoir.
Et il s'éloigne. Galien se demande ce qu'il va pouvoir lui dire.
Le corps l'aidera.
Le domestique revient.
Madame veut bien vous recevoir. Entrez, monsieur.
Galien entre. Il ferme la porte. Et mène Galien au salon. Ouvre la porte. Entrez, monsieur. Il entre. Elle est là, au milieu de la pièce, en robe noire, toute simple, belle. Elle a un côté majestueux. Ce noir avec ses cheveux blonds lui va très bien. Elle a rajeuni même. Il s'approche d'elle.
Madame, elle lui dit, j'allais vous appeler pour vous dire que l'appartement était libre.
Cela ne presse pas,
elle lui dit. Je vais préparer un dédommagement.
Cela n'en vaut pas la peine,
elle lui dit. C'est vrai, vous étiez déjà payé.
Elle s'assoit.
Enfin, tout ça c'est du passé, Galien lui dit. Je ne sais comment vous dire. Je suis très touchée.
Elle lui dit,
cela suffit. J'ai renié mon fils. C'est de votre faute tout ça.
C'est vous qui l'avez tué.
Galien lui dit, oh non, madame. Je vous supplie de ne pas penser comme ça. Bien au contraire, je l'aimais.
Elle lui dit,
vous l'aimiez, peut-être, mais d'une façon dépravée. Vous l'avez soustrait à l'amour d'une mère.
C'est faux, madame.
J'ai toujours fait pour qu'il ait de bons rapports avec vous.
Elle lui dit,
en dépravant. S'il est mort, c'est de votre faute. Tout est de votre faute. C'est vous qui l'avez tué. En vous querellant avec lui et en l'éloignant de moi. Je vous déteste.
Madame,
cela suffit. Partez. Je vous déteste. Vous haïs. Vous l'avez tué.
Galien, honteux, voyant qu'il n'y a rien à faire, la quitte.
Il se retrouve dehors, le corps gros, envie de vomir. Il entre dans sa voiture.
Se retrouve dans son bureau. Il a l'impression d'une grande injustice.
Les jours passent.
Il pense toujours à Guillaume et se souvient toujours de la scène qu'il a eue avec la mère.
il se dit que cette histoire se termine très mal. Un jour, il reçoit un appel téléphonique de sa secrétaire.
« Monsieur, il y a une personne qui désire vous voir.
Elle a un rendez-vous ?»«
Non, monsieur. Eh bien, dites-lui que qu'est-ce qu'elle veut et demandez-lui qui est-ce »«
C'est Madame de Flory. » Il pâlit.
« Bien, faites-la entrer. »
On a frappé à la porte. Il s'attend à une scène terrible.
Entrez.
Elle entre. Elle est en tailleur noir avec un foulard de soie beige. Il se lève.
Madame, monsieur, je suis.
Il lui dit. Venez vous asseoir, madame.
Et elle va s'asseoir.
Elle lui dit, je suis venu m'excuser pour la scène de la dernière fois. Il lui dit, je comprends, vous n'avez pas à vous excuser. Elle lui dit,
surtout que j'ai été très injuste envers vous. Vous avez beaucoup fait pour mon fils et moi-même. Vous avez tant fait. Et vous l'avez vraiment aimé, j'en suis sûr.
Elle lui dit, oui, je l'ai aimé, mais peut-être pas assez. Cela ne l'a pas empêché de... Elle lui dit,
ce devait être un accident, sûrement un accident. De toute façon, nous ne le saurions pas. Nous ne le saurons jamais. Il me manque beaucoup. Sa mort m'est insupportable. J'ai besoin de sa présence. Je ne supporte plus ce vide. Il faut absolument faire quelque chose.
Gaïen lui dit, je vous comprends moi-même.
Je crois que vous feriez peut-être bien de faire un voyage.
Elle lui dit,
à quoi bon? On emporte avec soi ses peines. Le décor change, mais l'âme reste.
Il lui dit, alors dites-vous qu'il aimerait vous voir faire telle ou telle chose et que ça lui ferait plaisir.
Elle lui dit, à quoi bon? C'est de lui dont j'ai besoin.
Elle lui dit, je sais.
Elle lui dit, alors, aidez-moi.
Il ne comprend pas. Elle continue,
aidez-moi à le faire revivre.
Il lui dit, si je pouvais.
Elle lui dit, vous le pouvez.
Comment?
En le faisant revivre.
Je ne vois pas.
Vous le savez mieux que moi, et je ne comprends pas que... Vous n'y ayez pas pensé avant. Avec l'aide des nouvelles techniques, l'ADN et tout. Faites-le revivre.
Il lui dit, j'aimerais bien, madame, mais c'est impossible. C'est techniquement impossible. On ne peut pas faire revivre un être.
Elle lui dit, je l'ai lu, c'est possible. S'il le faut, je payerai.
Il lui dit, ces techniques sont toutes nouvelles. Elles ne peuvent pas faire revivre ce qui est mort. L'ADN a la mémoire des cellules, mais c'est tout. Pas du cerveau, de l'être. En tout cas, pour le moment. Et si on faisait revivre votre fils, pour le moment, ce serait qu'une chose, un objet qui respirerait, mangerait, bougerait, mais c'est tout. Une poupée, une marionnette,
elle lui dit. Il vaut mieux ça que rien du tout.
Il lui dit, mais vous auriez aucun rapport avec votre fils. Ce serait comme une plante.
Ce serait cruel pour vous de le voir dans cet état.
Elle lui dit,
et maintenant, vous ne trouvez pas que c'est cruel?
Il lui dit, je comprends. Moi aussi, si je pouvais. Et puis, Il est trop tard, cela fait plusieurs jours qu'il est mort. » Elle lui dit, « C'est faux, j'ai lu qu'on pouvait prendre l'ADN de personnes mortes de plusieurs centaines d'années, même milliers d'années. » Il lui dit, « De toute façon, ça ne servira à rien de lui prendre son ADN, son corps est mort. » Elle lui dit, « Essayez tout de même. » Il lui dit, « Je ne me vois pas découper le corps de mon ami, ce m'est insupportable rien que d'y penser. » Mais je vous promets, c'est devoir. Je vais faire venir mes chercheurs pour voir où en sont leurs recherches. De toute façon, il faudra votre accord pour faire ça. Elle lui dit, vous l'avez. Elle se lève, lui aussi. Elle lui dit, je vous quitte, mon notaire m'attend chez moi. J'ai été stupide, n'est-ce pas? Non, moi aussi, vous savez. Venez me voir quand vous voudrez. Vous aussi. Elle lui tend la main. Il la prend. Je vous raccompagne.
Il la raccompagne jusqu'à l'ascenseur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Puis retourne à son bureau.
Une fois à son bureau, il se dit, les gens ont beau faire, ils seront toujours mortels. Ils demandent trop à la science. Il prend son téléphone et dit à sa secrétaire, « Dites à M. Riquin que je veux le voir dès que possible. Merci. » Monsieur Riquin va au bureau de Gallien.
Entrez. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, monsieur Riquin. Monsieur Riquin va s'asseoir en face du bureau.
Vous avez quelque chose à me dire, monsieur le président? Oui, voilà. J'aimerais savoir où en sont vos recherches sur la renaissance des cellules humaines.
Riquin lui dit, elles sont en bonne voie. Avec l'ADN, on arrive à recréer des cellules. Et le cerveau?
Le cerveau aussi. Nous avons fait un ordinateur à base d'ADN. Comme mémoire. Nous avons aussi réussi, c'est à mettre de l'ADN dans un cadavre et à son cerveau, un cerveau neuf qui remplace le vieux pour faire revivre la personne.
Mais quelle personne?
Celle qui est représentée par le corps ou celle qui possédait le cerveau?
À mon avis, c'est celle qui possédait le cerveau.
La chose a bien marché. Le corps et le cerveau se sont remis en marche et en harmonie. Bien entendu, c'est une expérience secrète. Il ne faut en parler à personne.
Gaïa lui demande, le corps était d'un mort, mais le cerveau?
Non. Nous l'avons pris d'une personne qui était dans le coma profond, avant qu'il ne meure. Et l'ADN a permis ce transfert sans rejet. Et a fait
la jonction avec le cerveau et le corps, tout en donnant en même temps ses propres informations à son nouveau corps. Galien lui demande, et un cerveau mort ?
Un cerveau mort ? Comme je vous l'ai dit, nous faisons des expériences en reliant sur un ordinateur. On met l'ADN du mort dans l'ordinateur comme mémoire et on relie l'ordinateur au cerveau qui, lui, est réactivé, bombardé de rayons laser. Pour le moment, ça donne pas grand-chose. Il faut encore attendre un bon bout de temps pour y arriver.
Galien lui demande, en attendant, est-ce que l'on peut mettre un corps dans un congélateur pour qu'il puisse se conserver ?
Pourquoi pas ? En attendant que la science puisse le faire revivre. Cela évitera qu'il se putréfie.
Galien lui demande, faut-il mettre son cerveau à part ?
Si vous voulez faire revivre toute la personne, laissez-la comme elle est. Mais protégez bien le cerveau.
Faut-il le vider du sang ?
Non, le sang congelé, c'est très bien. Vous lui raserez la tête, les poils, un bon nettoyage, et dans le congélateur.
Je vous demande, si je vous le demande pour le faire pour une personne.
Oui.
Mais attention, ne faites pas d'expérience.
Je vous le promets.
Bien, je vais prévenir l'intéressé. Et moi, veillerons à ce que vous allez faire.
Galien prévient la mère qui lui donne son accord par écrit. Il lui dit, ça ne marchera peut-être jamais ou dans 200 ans. Elle lui dit,
ça vaut la peine d'essayer.
Bien, venez chez moi signer le papier d'autorisation pour qu'on puisse prendre le corps de votre fils et le congeler.
Bien, merci.
Et c'est ce qui se passe. Guillaume a été congelé et mis dans une armoire froide, sous-scellée dans le laboratoire de Riquin. La mère a versé 100 000 francs pour avoir pris la location de l'armoire et après, elle paiera l'opération de réanimation au prix de l'époque et prévue sans discussion par le médecin. Galien a assisté à la mise sur congélation de son ami. Il n'a pas eu le temps de se dégrader. Le cercueil était plombé. Les jours passent. Galien, Madame de Fleury, se voient très souvent et sont redevenus bons amis. Il va tous les mercredis après-midi chez elle discuter. Elle adore les livres et la peinture. Galien lui parle aussi de films, tout en buvant le thé. Il leur arrive aussi de parler de Guillaume, mais comme une personne vivante et heureuse. Les jours passent. Depuis cette histoire, Galien n'est pas retourné à Lyon. Il est gêné car il se souvient de ce qu'il a dit à Philippe et en même temps qu'à Paris, Guillaume mourait. Il se sent coupable et honteux, mais se dit aussi que Philippe n'y est pour rien, que c'est lui, lui seul le coupable, que peut-être que s'il n'avait pas menti, il aurait fait de la peine aux deux. S'il avait dit la vérité à Philippe, il aurait fait du mal. Et il y aurait eu deux mauvaises actions sur la conscience. Après avoir réfléchi, il se dit qu'il devrait retourner à Lyon. Et il y retourne. Il va d'abord voir ses parents. Je n'ai pas pu venir vous dire bonjour plus tôt. J'ai encore eu une chose à faire très désagréable. Le fils d'une de mes amies est mort d'un accident. La mère lui dit, « Oh, la pauvre, il faudra nous la présenter. » Il lui dit, « C'est pas ce que vous croyez, c'est une amie et c'est tout. Elle est aussi âgée que vous. » Elle lui dit, « Mais je ne suis pas aussi âgée que ça. » « Je ne dis pas ça, mère. Je le dis simplement pour vous faire comprendre qu'elle n'a pas l'âge pour être autre chose qu'une amie. » Son père lui dit, « Cela ne veut rien dire. Regarde, un de mes oncles était avec une femme qui était plus vieille que sa mère. » Et ils étaient très heureux ensemble. Gaïen lui dit, « De toute façon, elle n'est qu'une amie. Et le mot « ami » ne veut pas dire autre chose qu'ami. Parce qu'à notre époque, on transforme toutes les désignations et avec les concubinages, divorces, etc., on ne sait plus où on en est. Moi, lorsque je dis un mot, c'est dans son sens propre. Autrement, je dirais « compagne, femme, fiancée ou même maîtresse ». Son père lui dit, « Bon, allons manger. »
Et ils vont dans la salle à manger. Sa mère lui dit, « Je t'ai préparé ton plat favori, des courgettes farcies. » « Mais maman, je n'en mange plus. À Paris, c'est le restaurant ou les plats congelés. »
Ils s'assoivent à table.
Elle lui demande, « Tu n'as pas de cuisinière ?»« Oui, bien sûr, mais avec les heures syndicales, elle finit son travail pendant que moi, je commence presque le mien. Alors les plats sont toujours réchauffés. Elle lui dit, fais tout de même, tu pourrais tout de même lui dire de rester. Je ne peux pas, avec les 35 heures, on ne peut pas demander de faire des heures supplémentaires. Qu'elle commence plus tard alors. Non, cela deviendrait le tarif de nuit et coûterait aussi cher que si elle faisait des heures supplémentaires.
Elle lui dit, alors les domestiques, c'est fini. Si l'on veut. Et toi, comment fais-tu? Moi, je prends des femmes au noir. Après le repas, il est allé chez Philippe. Il sonne à la porte. Lui ouvre Philippe.
Salut, salut.
Entre. Il entre. Mes parents sont absents. Allons dans ma chambre.
Et ils y vont. Assieds-toi et s'assois sur le lit.
Philippe lui dit, ça fait longtemps que t'es pas venu. Cayenne lui dit, beaucoup de travail. Philippe lui dit, on se voit plus comme avant. Cayenne lui dit, si tu veux, nous pouvons partir quelques jours au château. Philippe lui dit, qu'est-ce que je ferai là-bas? Cayenne aux épaules. Nous serons ensemble. Pouf, Philippe lui dit. Dans le château, avec tout ce monde, nous vous cacherons. Et puis tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'explorer tout en nous faisant plaisir? Et fonce sur Philippe, le maintient bien à plat, couche sur le dos, le maintient les mains en arrière, en l'air, et l'embrasse sur les lèvres. Lui dit, j'ai envie de te retrouver. Nous parlerons après. Tu veux? Oui. Il lâche sa main et se met contre son ami. Puis se dégage pour lui défaire sa ceinture. Censure. Et ils sont partis, 3 jours plus tard, avec d'amphores. Philippe a pris une petite valise. Le voyage se passe sans histoire.
Une fois arrivés au château, ils sont reçus par les domestiques comme s'ils les attendaient. Galien demande au maître d'hôtel « Comment saviez-vous que nous allions venir ?»«
Nous ne le savions pas, monsieur, mais nous devons toujours être prêts pour vous recevoir. »
Décident de commencer leur exploration. Ils prennent chacun une lampe de poche, un couteau et une bonne corde. Ça peut servir. Galien lui dit « Nous allons explorer le château du grenier à la cave. Après, nous verrons. »
Et ils sortent de la chambre de Galien.
Et ils montent jusqu'au dernier étage. Qui donne un escalier en bois. Qui donne au grenier. Ils prennent l'escalier qui les mène un couloir. Tout est poussiéreux, avec au sol du parquet non ciré. Les portes sont en bois. Ils suivent le couloir.
Et ouvrent les portes aux pièces qui servaient de débarras. Les plafonds, c'est de la charpente du château. Il y a dedans de vieux meubles, de vieilles valises, de vieux vêtements, des piles de journaux, de vieux jouets. Galien lui dit, il ne détecte rien du tout, il regarde des livres. De très intéressant, des livres du 18e, du 19e, des romans. Il y a aussi dans les tiroirs des vieux vêtements, à terre aussi. Des vêtements qui tombent presque en poussière à cause de la chaleur. Ils font les 5 pièces du grenier. Regarde les tiroirs, les armoires. Il n'y a rien, tout a été vidé.
Galien lui dit, c'est un grenier comme les autres. Philippe lui dit, non, c'est mieux. Il y a des objets de valeur. Tu devrais t'en occuper, les vendre ou les descendre. Galien lui dit, je trouve qu'ils sont très bien ici. Et ce serait peut-être un sacrilège de les sortir. Ils ont appartenu à l'histoire de ce château. Les vendre, c'est perdre de son âme. Gardons-les. Et ils descendent aux étages. Thank you.
visite l'étage du haut, qui est le quatrième du château. Là se trouvent d'anciennes chambres du personnel. Elles sont vastes et propres. Les lits sont encore faits. Les armoires vidées. Philippe demande :
Pourquoi est-ce que les lits sont faits, puisque personne ne vit ici ?
Galien lui dit : Ce doit être une habitude des domestiques.
Ils ouvrent une armoire. Dans une armoire, ils voient une robe noire.
Tiens, elle a été oubliée.
Philippe la touche et lui dit : Non, elle est neuve. Galien regarde autour de lui et ne voit rien de personnel.
Il n'y a que cette robe.
Il la touche et sent quelque chose dans la poche.
Tant pis, je regarde. Il met la main dans la poche et en sort un bout de papier. Il le déplie.
Et lit. Les sept soleils. Bientôt l'élu viendra et détruira pour reconstruire les sept merveilles. Il montre le papier à Philippe, qui le lit et lui dit : L'élu, c'est toi alors ?
Galien lui dit : Des fois j'ai l'impression c'est de faire partie d'une secte ou que je suis malgré moi un dieu.
Philippe lui dit : C'est ridicule.
Galien lui dit : C'est pas si ridicule que ça. Regarde tout ce qui m'entoure, tout ce qu'il y a autour de moi.
Eh bien, appelons la police. Galien lui dit : Ils ne verront rien. Nous serons des amis. Et n'oublie pas, c'est qu'ils ont de bons rapports avec l'État.
Philippe lui demande : Que faut-il faire ?
Galien lui répond : D'abord savoir ce que c'est, quels sont leurs buts. Après, nous verrons ce que nous pourrons faire. Agir pour les empêcher de faire du mal s'il y a le.
Et il remet le papier dans la poche de la robe.
Philippe lui dit : Cette robe n'est pas une robe de domestique.
Oui, tu as raison.
Il passe la main au-dessus de l'armoire et trouve une broche en forme de médaillon où se trouve dessus gravé un visage de jeune homme de profil
à l'antique, façon 18e.
Le médaillon est lourd.
Ce doit être de l'or.
Il voit qu'il peut l'ouvrir. Il l'ouvre et voit à l'intérieur du médaillon la photographie d'un jeune enfant dans les 12 ans en costume sombre. La photo est en noir et blanc. Il a les cheveux blancs, blonds, le visage très doux. Et de l'autre côté est gravé cette phrase : Donnez-lui ce qui lui appartient, les sept soleils.
Philippe demande : Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais pas. Peut-être un élu ou quelque chose comme ça. Il referme le médaillon. Elle remet sur l'armoire.
Pourquoi est-ce que tu ne le gardes pas ?
Il ne faut pas qu'ils sachent ce que nous avons vu. Autrement, ils vont tout cacher et nous ne trouverons plus rien. On doit tout faire comme si on ne savait rien pour pouvoir savoir le plus de choses. Sortons.
et visite les autres pièces. Il ne trouve rien. À l'étage plus bas, ce sont les chambres des maîtres et de leurs invités. Il visite toutes les chambres, il n'y a rien, tout est en ordre et attendent les personnes. Dans la chambre de Karine, il y a toujours le tableau et son mystère, mais rien de plus. Puis, au troisième étage, se trouvent les bibliothèques, salons privés, bureaux. Rien. Et le premier où se trouvent les salons, salle à manger, le tout en enfilade. Là, non, rien non plus. Puis, ils vont au rez-de-chaussée, hors d'entrée, et sont arrivés. Galien lui dit, nous n'avons rien trouvé. Philippe lui dit, il faut tout de même continuer à chercher pour savoir qui était ce jeune tout. Il ne reste plus que la corve. Galien lui dit, allons-y. La porte qui mène à la corve se trouve derrière les escaliers et elle est cachée par de la tapisserie, ce qui fait qu'on ne peut la trouver si on ne le sait pas. Il n'y a pas de poignée de porte, mais une serrure. La clé n'y est pas. Galien demande la clé au domestique.
Pourquoi faire, monsieur ? Si vous désirez du vin, vous pouvez le demander.
Je veux voir mes corves, visiter.
Drôle d'idée, monsieur.
Donnez la clé. Le domestique la lui donne.
Ne la perdez pas.
Et Galien va ouvrir la porte qui donne aux caves.
Ça donne sur des escaliers de pierre qui sentent l'humidité. Il allume. Et ils descendent. Cela donne dans une grande pièce, pleine de bouteilles, de vin, dans des casiers, tout est propre, en ordre. Ils vont vers le bout de la pièce et voient un long couloir.
Ça doit être la cave proprement dite. Viens.
Ils y vont. Oui. Ce sont des caves. Les portes ne sont pas fermées. Il suffit de les pousser. Il y a de vieux outils de jardin et autres. Rien d'intéressant. Ils ont tout vu et s'en retournent. Galien lui dit, il n'y a pas de secret ici. Viens. Tout en marchant, Philippe regarde le sol et voit. Il y a une dalle plus claire que les autres. Et bien découpé. Tu as vu ? Galien regarde. Oui, je dois aller aux égouts.
Philippe lui dit, en pleine campagne,
il n'y a pas d'égout.
Galien lui dit, alors un puits ?
Philippe lui dit, et pourquoi pas un passage ?
Ils se penchent tous deux. Les dalles sont en ciment. Il y a des petits anneaux dessus. Galien tire sur les anneaux pour soulever la dalle. C'est lourd. Avec un couteau, il dégage bien les contours. Recommence plusieurs fois.
Philippe lui dit, ce doit être le passage de la secte des sept soleils.
Tout à coup,
une lumière apparaît sur la dalle. se soulève d'elle-même.
Mince alors, dit Galien, une fois qu'elle s'est soulevée complètement, et regarde avec sa lampe l'intérieur, et voit des escaliers. Viens.
Et ils descendent des escaliers.
Derrière eux, la dalle s'est refermée.
Philippe lui dit, nous sommes prisonniers.
Galien lui dit, peut-être pas. Nous allons peut-être trouver une autre sortie.
Et ils descendent des escaliers de pierre, humides, qui descendent comme un limaçon. Les escaliers sont de plus en plus humides. Ça sent une drôle d'odeur. Arrivé en bas, il y a une grande pièce en demi-cercle où se trouve une estrade de pierre, une table de pierre, et sur le mur derrière la table, un immense soleil. La table est au milieu de la pièce. On peut y faire le tour. La nudité de la table ne la rend pas vide, mais pleine de sens, de chaleur étrange.
Galien dit, ce doit être un hôtel.
Ils s'éloignent de la table et font le tour de la pièce.
Ils tournent autour de l'estrade.
Il s'arrête devant le tableau qui représente les sept soleils, qui est un soleil stylisé et en relief.
Il est grand et d'une très grande luminosité.
Galien, en voyant le tableau, voit tout tourner. Il a l'impression qu'il va perdre connaissance. Philippe le retient. Viens, sortons d'ici.
Ils font le tour de la pièce pour chercher une issue. Ils ne trouvent rien.
Philippe lui dit, nous sommes perdus. Enfermés pour toujours.
Tout à coup,
ils sentent le sol bouger, un souffle les attire vers le fond.
Les fait tomber dans un grand trou noir, humide.
Descente vertigineuse, il se trouve en bas, sans encombre, dans une allée ou un couloir.
Galien demande, que s'est-il passé?
Philippe lui dit, peut-être un éboulement
et nos lampes. Elles marchent. Ils les ont gardées dans la main tout le long de la chute.
Ils les essayent.
Oui, elles marchent.
Philippe demande.
Que faisons-nous?
Galien lui dit. On ne peut faire autrement que de continuer à trouver une sortie.
Ils se relèvent, sont seuls, mais n'ont rien.
Et marchent droit devant eux.
Le couloir est sombre, comme une caverne. C'est très sombre. Il y a des chauves-souris.
à coup,